Champagnac, assassin tué par sa victime. Lors des troubles de la Ligue, la Provence fut loin d'être exempte des fureurs de la guerre civile. Les catholiques et les protestants rivalisèrent d'acharnement et de cruauté. Henri, bâtard de Valois, comte d'Angoulême, grand prieur de France, était gouverneur de cette province. Il poursuivit les ligueurs avec fermeté et se vit d'un assez grand nombre d'ennemis. Soit que sa conduite ne fût point à l'abri de la censure, soit que la calomnie cherchât à le perdre, on fit contre lui des plaintes qui parvinrent jusqu'au trône, et les plus vives furent celles de Philippe Altoviritis, capitaine de galères. Ce gentilhomme, originaire de Florence, était mari de Renée de Rieux, surnommée la Belle de Châteauneuf, qui avait été maîtresse du roi Henri III et qui n'avait consenti à cette alliance que parce qu'elle n'en avait point trouvé de plus brillante. Cette femme avait tué de sa propre main son premier mari nommé Antinotti. Elle était alors à la cour où elle conservait par sa beauté et encore plus que par sa naissance le crédit qu'il y avait acquis par ses criminelles faiblesses. Elle voyait souvent la reine qui n'aimait point le grand prieur parce qu'il était ennemi de la faction qu'elle protégeait. Altovitis, écrivant un jour à sa femme, lui mandait que ce gouverneur opprimait le pays par ses exactions et que pour se rendre nécessaire, il prolongeait une guerre qu'il était dans son pouvoir de terminer. Altovitis était alors à Aix pour l'Assemblée des États. Sa lettre tomba entre les mains du roi ou du ministre et fut renvoyée au grand prieur qui, après en avoir pris lecture, ne put maîtriser sa colère. Dès son premier transport, oubliant ce qu'il devait à son rang et à sa naissance, ce qu'il se devait à lui-même, il court, l'air effaré, tout bouillant de fureur, à l'auberge où logeait Altovitis. Il entre précipitamment dans sa chambre et lui lançant un regard foudroyant, il lui crie en lui montrant sa lettre « As-tu écrit cela ?» Altovitis n'a pas le temps de se remettre, de répondre un seul mot. Le grand prieur fond sur lui l'épée à la main et lui emporte deux coups. Altovitis, aussi effrayé que surpris, lui demande l'avis. Le grand prieur redouble. Et alors Altovici, rassemblant le peu de force qui lui restait, et poussé par le désespoir, frappe le gouverneur d'un coup de poignard dans le ventre. Celui-ci se sentant grièvement blessé, s'écria en tombant « Je suis mort, Altovitis me tue !» À ces cris, quelques gentilshommes de la suite, qui étaient à portée de l'entendre, accourent, et voyant le grand prieur baignant dans son sang, se précipite transporté de rage sur Altovitis, qui perdait le sien par ses blessures, et achève ce malheureux, et jette son cadavre par la fenêtre. Le grand prieur ne survécut pas longtemps à sa victime. Il ignorait que sa blessure fût mortelle. On lui en dissimulait même le danger. Mais un cordelier qui lui servait de confesseur lui en dit nettement qu'il ne fallait plus songer à la vie. Le grand prieur lui répondit sans émotion « Il faut plus songer à vivre. Eh bien, pensons donc à mourir. » Il expira le lendemain 2 juin 1586, ayant terni par un indigne assassinat une vie qu'il aurait pu illustrer par ses brillantes qualités. Suivant Anselme, ce prince avait été un de ceux qui avait assisté à l'affreuse résolution de la journée de la Saint-Barthélemy, et fut avec le duc de Guise celui qui donna les ordres pour cette horrible boucherie. Nous apprenons même du président de Toux que pour être bien assuré du meurtre de l'amiral de Coligny, il lui essuya le visage avec un mouchoir, et que l'ayant reconnu, il lui donna un coup de pied, en ajoutant à cette barbare action ces mots qu'il adressait à ceux qui étaient avec lui. « Courage, mes amis, nous avons bien commencé, finissons de même.